Bonjour, c'est mercredi et mercredi, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Moodstep. Nous allons parler de management et de savoir-être. Aujourd'hui, nous recevons Latifa Gallo, coach, auteur, avec qui nous allons parler d'intelligence émotionnelle. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur et votre hôte pour ce podcast. Retrouvons tout de suite Latifa. Bonjour Latifa.
Bonjour Johanna.
Aujourd'hui, on va parler d'intelligence émotionnelle et comment nos émotions peuvent nous aider à mieux manager. Mais avant d'attaquer le sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît?
Alors, je suis coach, avant toute chose, et consultante depuis 20 ans déjà. Et j'accompagne des managers, des dirigeants dans leur développement professionnel, mais qui passent avant tout par leur développement personnel, parce que c'est vraiment la base et l'ancrage sur lequel ils peuvent ensuite évoluer professionnellement. Voilà, j'anime également des séminaires de cohésion d'équipe, donc du coaching d'équipe, qui permet, en fait, coaching d'équipe, ça sert à quoi? Ça permet à une équipe de travailler sur son fonctionnement, de l'améliorer, de créer plus de liens, de motivation. Voilà, donc autrement, je dirige également un cabinet de formation et de conseil depuis 20 ans. Et on propose avec notre équipe de formateurs des formations en management, gestion du stress, gestion des conflits, communication. Et en fait, mon parcours, c'est assez une évolution, je dirais, dans la formation et dans le coaching, puisqu'en fait, j'ai commencé il y a 20 ans à travailler comme sophrologue, parce qu'à la base, je suis sophrologue dans l'entreprise. Donc, j'ai fait les premières formations en gestion du stress dans les entreprises, donc c'était un petit peu extraterrestre à l'époque. Et en fait, assez rapidement, évidemment, je me suis rendu compte que les employés étaient stressés aussi, entre autres, parce que les modes de management n'étaient pas forcément déstressants, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de pression sur l'entreprise. Donc du coup, je me suis mise à former les managers au stress, mais également au management. Et puis, je me suis rendu compte que l'encadrement était aussi stressé et puis pas forcément content de leur... du mode de management de leurs dirigeants. Donc, c'est là où j'ai entamé tout un cycle de formation de coach pour devenir coach depuis 15 ans maintenant. Et j'accompagne également les dirigeants. Voilà, donc en fait, j'aime bien travailler sur les différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise. C'est comme ça, en fait, qu'on peut avoir vraiment du résultat. Et sachant que, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de contribuer à développer plus d'humanité, plus de liens et plus d'authenticité et plus d'intelligence émotionnelle. C'est donc ce dont on va parler dans l'entreprise aujourd'hui. Et en partant avant tout par le dirigeant, le leader, les managers, évidemment, qui vont insuffler eux-mêmes leur énergie sur le reste des équipes, en fait.
Vous êtes assez pionnière, en fait, parce que la sophrologie, le coaching, aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de coachs, mais à l'époque, c'était un terrain vierge. Comment vous avez découvert le coaching
En fait, j'ai même fait la première formation de coach sur Paris, il y a plus de 20 ans maintenant.
Et c'était quelle école?
Zaïk International, qui à l'époque s'appelait Transformation École. Voilà, avec Michel et Daniel Darmoni d'ailleurs, que je salue au passage. Et donc en fait, mais tout simplement parce que en démarrant les formations de gestion du stress dans l'entreprise, je me suis vraiment rendu compte que c'était bien de travailler sur le terrain avec les employés, mais si on travaillait avant tout avec les dirigeants et les leaders, ça serait sûrement plus efficace. Donc je me suis dit, comment travailler avec les dirigeants? Et à ce moment-là, j'ai vu que les premières formations arrivaient de coach sur Paris, et je me suis inscrite à la première ou à la deuxième, sur les premiers cycles de formation, quoi, en fait. Et assez rapidement, j'ai commencé à travailler, même si effectivement, c'était pas encore développé à l'époque. Il y avait déjà des managers, des dirigeants, comme je les appelle, éclairés, entre guillemets, qui déjà se posaient des questions sur leur management, sur leur façon de fonctionner, sur ce qu'ils avaient envie de transmettre et comment ils avaient envie de manager leurs équipes, en fait.
Et vous utilisez toujours la sophrologie aujourd'hui?
Entre autres, oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, je l'utilise parce que je pense que pour qu'un manager ou qu'une personne dans un contexte professionnel ou autre soit bien, c'est important qu'il puisse travailler aussi bien sur son esprit, sur l'analyse de ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans son comportement, dans son fonctionnement, mais également sur le corporel. Hein, on travaille beaucoup sur l'esprit en Occident et on oublie beaucoup le corps, quoique ça revient quand même aujourd'hui avec toutes les approches corporelles. Et dans l'entreprise, bah, c'est essentiel évidemment de se reconnecter à ses sensations, à sa respiration, à son tonus musculaire. Voilà, donc j'intègre, oui, toujours des exercices, j'intègre toujours des exercices de sophrologie à mes accompagnements.
Du coup, vous avez balayé pas mal de techniques. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette question de l'intelligence émotionnelle vous intéresse particulièrement? En quoi elle est cruciale selon vous?
Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis le début, en fait, parce que d'abord par un parcours personnel où effectivement j'ai beaucoup travaillé sur moi, je continue d'ailleurs en permanence de le faire et en supervision et sur un plan personnel aussi. Et je me suis évidemment assez vite rendu compte combien les émotions étaient importantes d'abord dans la vie de tous les jours pour tout un chacun, mais encore plus dans le monde professionnel. Et là aussi, c'est vrai que dans l'entreprise, quand j'ai commencé à parler des émotions, c'était oh là oh là oh là, attention. Non, non, ça n'est pas mot, c'est juste la vie qui est en soi. Donc, je me suis rendu compte combien dans l'entreprise on était déconnecté des émotions et encore plus les managers, les dirigeants, puisque on est encore aujourd'hui dans la croyance que pour être un bon professionnel, un bon leader, un bon manager, il faut surtout rien montrer. Alors que non, au contraire, hein, c'est important non pas de montrer ses émotions, quoique, mais surtout d'y être connecté, quoi, parce que un manager connecté à ses émotions va être connecté à ce qui se passe à l'intérieur de lui, à ce qui se vit à l'intérieur de lui, et va être ensuite davantage connecté à ses collaborateurs et à ce que vivent ses collaborateurs et à son équipe. Donc ça va être un élément fortement motivationnel, je dirais aussi, pour ses équipes.
Est-ce que vous avez vu une évolution dans votre carrière de cette relation aux émotions dans le management? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Oui, alors clairement, hein, encore une fois, il y a 20 ans, quand je parlais d'émotions dans l'entreprise, c'était un lever de bouclier. Aujourd'hui, j'en parle et voilà, on le comprend intellectuellement. Tous les managers sont pas prêts à faire la démarche, mais je dirais qu'aujourd'hui, avec la pression que vivent les managers et les dirigeants dans la crise économique que l'on traverse et les difficultés économiques auxquelles sont confrontées toutes les entreprises et tous les managers, toutes les pressions, je dirais aussi, eh bien, j'ai de plus en plus en coaching des managers qui sont sur le point de craquer, qui font des burn-out, qui en ont fait tout simplement, hein. Et je dirais que une des causes du burn-out, ce n'est pas la seule évidemment, mais une des causes du burn-out, ça peut être aussi un manager qui est tout simplement déconnecté de ses émotions, donc qui n'a pas vu le burn-out arriver, donc qui ne s'est pas laissé ressentir parce qu'on lui demande d'être fort, parce qu'on lui demande d'être à la hauteur, parce que lui-même aussi se demande d'être fort et à la hauteur, et du coup cette déconnexion des émotions fait qu'il n'y a pas eu de signaux d'alerte. Mais j'accompagne également de plus en plus de managers qui ont envie de faire ce travail sur eux pour se connecter à ce qui se passe à l'intérieur d'eux, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus manager comme autrefois, sur des modes, je dirais, plus rationnels, plus analytiques. Donc, ils ont envie d'aller vers plus d'humanité, vers plus de liens, vers plus d'authenticité. Et pour aller vers tout cela, il faut d'abord être en lien avec soi-même. Hein. L'intelligence émotionnelle, c'est ça, hein, c'est déjà être en lien avec soi-même, être dans la conscience de soi, en fait, être conscient de ses émotions. Hein, peu de personnes finalement arrivent à être connectées à ces émotions parce qu'on n'a pas appris à l'être en fait. On n'a pas vraiment appris à l'être parce que les émotions c'est plutôt quelque chose de l'ordre du bon ben non, allez, on les écoute pas parce que voilà, encore une fois, cette société nous demande d'être fort. On a été éduqué sur le mode sois fort, sois parfait, ne montre rien, autrement tu vas pas y arriver. Alors que non. Alors que non, au contraire, hein, c'est la force d'une personne, c'est justement pouvoir être connecté à ses émotions, pouvoir être connecté aussi à ses fragilités, les reconnaître, pouvoir éventuellement les dire. Un manager fort, c'est pas un manager qui montre tout le temps qu'il est fort parce que ça n'existe pas. parce que personne n'est parfait, personne n'est fort en permanence, mais c'est un manager qui connaît ses forces, mais qui connaît aussi ses fragilités, qui peut en parler, qui peut échanger, qui peut aussi les montrer.
Mais alors, comment on apprend à voir ses émotions, à les reconnaître?
Eh bien, c'est un vrai travail sur soi, effectivement, qui consiste en fait à se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors, d'une manière générale, ou dans le monde de l'entreprise, hein, l'entreprise, c'est vraiment le lieu où il y a toutes les émotions. Hein. C'est le lieu où il y a de la joie, où il y a des plaisirs, où il y a du bonheur, mais c'est aussi le lieu où il y a des frustrations, des colères, des angoisses. Donc, je dirais que c'est vraiment le terrain privilégié des émotions. Donc, comment faire? C'est tout simplement, lorsque on se sent, voilà, pas très bien. Moi, souvent, on me dit, oh, ben, je ne sais pas ce que j'ai, je ne suis pas très bien, là, je... Bon, alors je dis, bah, écoute, arrête-toi, respire, déjà, respire tranquillement, respire par le ventre. Hein, la respiration abdominale est une respiration excellente. Pourquoi? Parce que c'est dans le ventre qu'il y a toutes nos émotions. Donc, respirer par le ventre, ça permet de se connecter, en fait, à ces émotions. Donc, petite parenthèse, une respiration abdominale, elle se déroule de cette manière-là. Lorsque j'inspire, mon ventre se gonfle. Lorsque j'expire, mon ventre se dégonfle. Hein, c'est dans ce sens-là, alors que la plupart du temps, les gens respirent à l'inverse. Donc déjà, on respire à l'envers.
Hein,
donc,
c'est-à-dire bien... à l'envers.
Ben, en fait, la plupart des gens inspirent en rentrant le ventre. Vous voyez, si vous inspirez, il y a plein... ben, oui, il y a plein de gens qui gonflent le thorax et puis qui rentrent le ventre.
Ah bon ?
Ben, oui, ben, ça, je peux vous dire que tant de pratique, j'en ai...
Ah, c'est étonnant, vraiment. Alors là...
Ben, oui, faites l'expérience autour de vous, demandez aux gens de vous montrer...
Si, si j'inspire, je fais rentrer de l'air dans moi, donc forcément, je gonfle.
Ah ben oui, pour vous c'est logique, mais je vous assure que dans les séminaires que j'anime avec les managers et que je leur demande de respirer, ils sont, alors on va dire que 9 sur 10 sont à l'envers.
Hein?
Eh oui. Eh oui,
wow,
oui.
Wow.
Forcément stressé.
Donc déjà ça, de remarquer ça chez soi, on voit à un moment qu'on n'est pas connecté avec presque le réel, la physiologie.
La physiologie, parce que c'est une respiration qu'on a à la naissance, en fait, cette respiration, et que l'on perd, en fait. Moi, je m'en suis rendu compte à une époque, au début de ma carrière, j'ai travaillé avec des enfants, et je me rendais compte, effectivement, que les enfants, vers l'âge de 5-6 ans, ils perdaient cette respiration, et ils la montaient, en fait, dans le thorax. Et à partir de là, ben, du coup, on se met à respirer à l'envers. Donc, alors que c'est une respiration de naissance, en fait, c'est la respiration physiologique, comme vous dites. Donc, il faut déjà, dans un premier temps, arriver à la reconnecter, cette émotion, par des exercices tout simples, en se mettant allongé, en mettant sa main sur le ventre, en pensant, effectivement, comme vous dites, qu'en inspirant l'air, bah, forcément, ça gonfle le ventre, et en expirant, en soufflant, ça dégonfle le ventre. Donc, déjà là, on se reconnecte à soi. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à son ressenti. Et à partir de là... Déjà, en plus, ça permet de gérer le stress. Alors, il faut savoir qu'il est important d'expirer plus longtemps qu'on inspire. Parce que c'est dans l'expiration longue qu'on va calmer, justement, les émotions quand elles sont trop fortes, qu'on va diminuer le stress. Donc, c'est vraiment important d'avoir un temps d'expiration qui soit plus lent que le temps d'inspiration.
Là, en faisant ces exercices, ça veut dire prendre du temps. Est-ce que ça ne stresse pas les managers de prendre du temps pour ces choses-là, en fin de compte?
Alors là, je n'arrête pas de le dire aux managers.
Il y a peut-être un paradoxe là, c'est-à-dire prendre du temps pour gagner du temps d'une autre manière, mais est-ce que c'est facile à comprendre?
Ben oui, parce qu'en fait, souvent les managers sont évidemment surbookés, sursollicités, donc et le temps pour soi, ils l'ont pas. Donc c'est important justement de prendre ce temps pour soi, pour prendre soin de soi, tout simplement, parce que ce temps que l'on va prendre pour soi, qu'ils vont prendre pour eux les managers, va leur permettre derrière de pouvoir développer une énergie qui va rejaillir sur leur travail, mais sur leur vie personnelle aussi. Moi, les managers qui sont en surstress, qui craquent parce qu'ils viennent me voir en me disant « j'en peux plus », je me rends bien compte, c'est des managers qui ne prennent pas ce temps pour eux. Donc la respiration, alors souvent on me dit « oui, mais j'ai pas le temps ». Ok, la respiration, ça va durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Voilà, ça ne prend pas de temps, ça ne coûte rien, on peut le faire n'importe partout, à son bureau, dans sa voiture, dans les transports en commun. Il faut, ce qu'on peut faire, ce que je dis aux managers, c'est voilà, coller des post-it sur votre agenda, pause respiration. Ce sont des pauses qui sont vraiment indispensables dans les entreprises. Je travaille avec pas mal d'entreprises dans différents secteurs, la grande distribution notamment, le secteur du bâtiment également. Mais d'autres secteurs également. Et j'ai travaillé avec des clients qui ont mis en place des pauses respiration sur le lieu de travail. Mmh. C'est-à-dire que où les équipes s'arrêtent ensemble pour respirer pendant 5 minutes.
Ce qui est aussi un outil de cohésion, de se mettre au diapason.
Évidemment, évidemment. C'est-à-dire qu'on va respirer au même rythme, une équipe qui respire au même rythme, ben ça crée évidemment de la cohésion, ça crée du lien et ça crée de la respiration, évidemment. C'est donc là besoin de toute équipe. Et à partir du moment où on va être connecté à sa respiration, ben on va être connecté à ses émotions. Donc, pour répondre à votre question, comment se connecter à ses émotions, c'est je me pose tranquillement sur mon fauteuil, sur ma chaise, je respire par le ventre, j'expire plus longuement et j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je ressens là en ce moment? Je pars, je me sens un peu, je me sens comment en fait? Et là, ce qui est important, c'est d'arriver à développer son vocabulaire émotionnel parce qu'en fait, notre vocabulaire émotionnel, il n'est pas développé, on ne sait pas trop mettre les mots dessus. En gros, on a quatre grandes émotions, hein, quatre grandes familles. Je fais court, on a quatre grandes familles d'émotions. On a la peur, la tristesse, la colère et la joie. Donc déjà de se dire, ok, qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que c'est de l'ordre de la peur? Est-ce que je suis inquiet parce que j'ai peur de ne pas arriver à boucler mon dossier? Est-ce que je suis inquiet? Est-ce que je suis soucieux? Est-ce que j'ai un peu d'appréhension pour cette réunion? Voilà. Donc déjà, arriver à repérer l'émotion qui me traverse, qui traverse le nageur, ça va lui permettre déjà de la faire tomber parce que les émotions, elles sont malignes, parce qu'elles se cachent. Et tant qu'elles se cachent et qu'on ne les repère pas et qu'on ne les clarifie pas, elles sont toutes puissantes. À partir du moment où on les a repérées, on se dit, ok, d'accord, ben là, oui, c'est vrai que j'ai quand même de l'appréhension pour cette réunion. Donc déjà, je vais pouvoir respirer, ressentir cette émotion et rien qu'en faisant de la respiration, en pensant, en ayant repéré cette émotion, déjà, elle va s'apaiser. Hein, c'est le principe de clarification en fait des émotions. Après, on peut avoir de l'émotion de la colère. Alors celle-là, elle est plus facilement reconnaissable, hein, la colère, hein,
Parce
parce
qu'elle est tonique.
qu'on est, elle est tonique, on est énervé. Et puis aussi, elle est plus facilement admise dans l'entreprise. La
C'est
peur,
vrai,
les managers, ils n'aiment pas dire non. Alors que c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être inquiet, de se faire du souci, d'être anxieux, parce que on a des responsabilités, parce qu'il y a des challenges, parce qu'il y a des objectifs, parce que c'est normal. Donc il ne faut pas avoir peur de la peur. C'est un moteur même, je dirais. C'est parce qu'on a peur que l'on peut développer l'énergie nécessaire pour arriver à ses fins.
Mais alors, une fois qu'on a reconnu ses émotions, c'est suffisant pour s'en libérer ou qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on alors on a développé son vocabulaire émotionnel, qu'on commence à savoir reconnaître ses émotions, où est-ce que ça nous mène?
Alors, première étape, effectivement, reconnaître ses émotions. Deuxième étape, c'est important de comprendre que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Derrière toute émotion, il y a un besoin caché. Alors, je travaille beaucoup, moi, en communication non violente de Marshall Rosenberg, qui a vraiment développé ce principe d'émotion et de besoin. Donc, chercher le besoin qu'il y a derrière l'émotion. Si j'ai peur, ben, peut-être que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'analyser, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'être rassuré. Si je suis triste, c'est que derrière, qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, j'ai besoin d'être réconforté. J'ai besoin un petit peu de tranquillité. J'ai besoin de m'isoler. Si je suis heureuse, ben, j'ai besoin de célébrer, j'ai besoin de partager. Hein? Donc, à partir du moment où on a repéré l'émotion, c'est important d'aller chercher le besoin qu'il y a derrière. Et à partir du moment où on a repéré le besoin, ça, c'est libératoire. Parce que nos besoins, ils sont encore plus cachés que nos émotions et qu'on n'a pas appris à être encore moins que nos émotions, à être connectés à nos besoins. Parce que dans notre société et notre éducation judéo-chrétienne, il fallait surtout pas s'écouter. Il faut surtout pas s'écouter. Et moi, je dis le contraire, écoutez-vous, écoutez vos besoins. Et ensuite, lorsque ça peut être un problème ou une difficulté que l'on a avec soi-même ou quelqu'un a déjà repéré son émotion et son besoin, c'est déjà libératoire. Parce qu'à partir du moment où on a repéré le besoin, ben derrière, on va pouvoir mener une action. Si j'ai besoin de communiquer, ben je vais aller communiquer avec la personne. Et si je suis en relation avec quelqu'un et que cette relation, cette situation, dans une situation professionnelle, une réunion ou un entretien avec un collaborateur, génère chez moi une émotion négative, de l'anxiété ou de la colère, à partir du moment où j'ai repéré le besoin, je vais pouvoir communiquer avec la personne sur ce que je ressens et sur le besoin caché. Et ça, c'est comment dire, de l'énergie, mais d'une puissance incroyable. Exemple, un manager est en réunion, il va présenter un dossier et il a un collaborateur qui va lui dire: Oh, ben dis donc, tu t'es pas vraiment foulé sur ce dossier. Ah, mais ça arrive, hein? Bref, le manager ravale, ou il n'ose pas trop parce qu'il y a le patron, donc il n'ose trop rien dire, il ravale son humiliation, il dit rien, et puis il sort de cette réunion, et puis il est vraiment pas bien, quoi. Et puis du coup, il va en vouloir à son collègue, forcément, à hein, juste titre, et il va lui faire la tête, et puis évidemment, ça ne va pas arranger les relations. Moi, ce que je suggère, et ce que la communication non violente suggère, c'est d'aller voir ce collègue, de le voir en aparté, et de lui dire ce que il ressent, le manager. En gros, c'est lui dire tout simplement, bah, tu vois là, lorsque nous avons fait cette réunion, et lorsque je t'ai entendu dire que mon dossier, vraiment, je ne m'étais pas foulée, bah, je me suis sentie vraiment blessée par ce que tu as dit. Je me suis sentie blessée et en même temps, je me suis sentie vraiment en colère. Et d'ailleurs, là, j'ai encore beaucoup de colère. Et en fait, j'ai vraiment besoin de respect. J'ai besoin de respect dans notre relation et je te demande à la prochaine fois, de me le dire en aparté. Si tu trouves que mon dossier, toi, tu peux me le dire en aparté.
Et là, c'est le dernier point qui est très intéressant parce que j'ai vécu une situation comme ça il n'y a pas longtemps et j'ai eu la chance qu'elle me soit décryptée par une autre personne qui faisait de la communication non violente. Et c'est l'importance de faire cette proposition, de dire, c'est-à-dire, des gens, je connais beaucoup de gens qui font de la communication non violente qui s'arrêtent à ça, à exprimer leurs besoins. Et en fait, ça nous laisse un peu en l'air, c'est-à-dire que si on ne dit pas comment on pourrait faire pour que ça se passe mieux la prochaine fois, quelque part, on ne va pas au bout du processus.
Bien sûr.
Et je l'ai ressenti de façon très forte et j'ai eu la chance que cette personne me décrypte. Et d'autant plus que j'ai trouvé ça passionnant parce que quand on est dans cette situation et qu'on connaît la communication non violente, on peut aussi aider l'autre à exprimer son besoin. Parce
Tout
que
à
nous, on
fait.
peut être blessé, mais on peut comprendre que l'autre est en train d'exprimer quelque chose et de l'aider à exprimer son besoin et formuler une nouvelle proposition. Donc, c'est vrai que des techniques qui sont extrêmement intéressantes, mais qui, quand elles sont mal maîtrisées, peuvent être
Yes.
aussi blessantes. C'est ça qui est étonnant.
Tout à fait. En fait, ce qui est important, c'est à la fin, on a quatre étapes dans le processus. Hein. La première étape, c'est de dire à l'autre ce qu'on a observé, hein, d'une manière neutre et objective. Deuxième étape, c'est de dire son ressenti, ses émotions. Et là, c'est important d'utiliser le je ressens cela, le je responsable, et non pas le tu accuse, qui va accuser l'autre, parce que là, ça va le mettre sur la défensive et ça risque de générer un conflit. Donc, je ressens ça. Et ensuite, j'ai ce besoin, et ensuite de faire une proposition, une demande. Une demande n'est pas une exigence, hein, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'attendre à ce que l'autre nous dise non. Ou bon. Donc, faire une demande, c'est important, effectivement, vous avez tout à fait raison, parce que si je ne dis pas à l'autre ce dont j'ai besoin et ma demande, comment est-ce qu'il peut revenir vers moi? Donc, je fais ma demande, et à partir de là, on peut entamer un vrai dialogue. Et la danse, en fait, de la CNV, c'est ça, c'est ensuite se mettre à l'écoute de l'autre, pouvoir écouter aussi ses émotions et aussi ses besoins, parce que l'intelligence émotionnelle du manager, c'est pouvoir dire ses émotions, ses besoins, mais c'est aussi pouvoir entendre celles de ses collaborateurs. Mais pour pouvoir entendre celles de ses collaborateurs, il faut d'abord qu'il puisse entendre les siennes. Voyez? Donc après, il peut aller vers l'autre et il va pouvoir, le manager, comme je l'appelle, le manager émotionnel, est en mesure d'écouter avant tout, de savoir écouter. L'écoute est un puissant outil de management et de pouvoir écouter les émotions de ses collaborateurs. Et il ne faut pas en avoir peur. Je veux dire, c'est important. Pourquoi? Parce que les personnes dans une équipe sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui ressentent des émotions. Et le manager qui sait écouter et reconnaître ses émotions va susciter l'adhésion et la motivation et va être vraiment, comment dire, un vrai repère du coup pour ces équipes. Hein. Et les équipes vont avoir qu'une envie, c'est de lui parler, de lui exprimer et d'être dans une relation authentique avec lui aussi. Donc, il va susciter la confiance en fait.
On est arrivé au bout du temps qui nous est imparti. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose qui vous semble important et dont on n'aurait pas parlé?
Eh bien, je pense que là, effectivement, on a quand même dit l'essentiel. Je pense que c'est important. On est aujourd'hui dans vraiment le développement d'une nouvelle génération de managers. Moi, je le vois vraiment de plus en plus, hein, les jeunes et nouveaux managers, mais même les managers moins jeunes qui aujourd'hui prennent vraiment conscience de l'importance de manager d'une manière plus humaine. Et pour être plus humain, il faut être dans les émotions, parce que les émotions, c'est la vie, c'est ce qui vit en nous, et les émotions ne nous trompent jamais. Encore faut-il savoir y être connecté. Voilà, je dirais que moi, je suis vraiment très confiante pour l'avenir, même s'il y a encore du chemin à faire, hein, mais quand je vois l'évolution effectivement des managers aujourd'hui, et surtout que les managers s'autorisent à être là-dedans, ça ne leur sera jamais reproché par leurs équipes, bien au contraire, ça ne peut être que source de motivation.
Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes prête pour le questionnaire?
Yes.
La première question, c'est quelle est la meilleure erreur que vous ayez faite dans votre carrière et quelles leçons en avez-vous tirées?
Alors, la meilleure erreur,
Oui,
j'aime bien
alors j'ai mis
la question.
meilleure erreur parce que vous comprenez bien que derrière la question, il y a bien qu'on apprend énormément de ce qu'on appelle les échecs qui sont jamais complètement des échecs quand on sait en tirer voilà, quelque chose de positif pour nous.
Alors, je dirais que, en fait, des erreurs, je crois que comme tout le monde, j'en ai fait, j'en fais sûrement encore, mais je pense que, enfin, je pense exactement comme vous, Johanna, c'est-à-dire que de toute erreur, je sais qu'il y a quelque chose à tirer. Et je dirais même mieux, je pense que quand il y a une erreur, justement, je l'ai cherchée pour apprendre quelque chose. Donc, je dis pas que j'ai provoqué l'erreur, mais à chaque fois que je me rends compte qu'il y a eu un problème, je dis, ouais, qu'est-ce que j'ai encore à apprendre là? Et finalement, qu'est-ce que j'ai déclenché? J'ai déclenché quelque chose parce que justement, j'ai encore quelque chose à apprendre. Donc, moi, je trouve ça génial, les erreurs. Maintenant, celle qui, quand même, sur le plan professionnel, moi, a été la plus apprenante, c'était il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai co-animé une cohésion d'équipe avec un coach que j'estime beaucoup, mais qui est très différent de moi, qui n'avait pas la même vision que moi. Mais je m'étais dit, bon ben, c'est pas grave, au contraire, nos différences vont enrichir la cohésion d'équipe, on est complémentaires, voilà. Le problème, c'est que quand on a animé cette cohésion d'équipe, avec quand même une grosse équipe de direction, je me suis rendu compte que c'était pas seulement nos visions qui étaient différentes, mais c'était aussi nos valeurs. Et là, ça a un peu coincé, parce que du coup, on a débriefé, on a organisé un exercice. Où en fait on s'est retrouvé un petit peu, enfin moi je me suis retrouvé en difficulté parce que la façon dont il l'a animé et débriefé me correspondait pas du tout, n'était pas du tout en cohérence avec mes valeurs, donc j'ai été assez mal. L'équipe a été assez mal aussi, donc voilà. Donc ça a été une cohésion difficile pour moi, mais en même temps voilà, ce que j'ai vraiment appris de cette collaboration avec ce coach qui du reste et avec qui du reste je suis restée très en lien, c'est qu'en fait c'est important dans nos collaborations de prendre vraiment le temps d'échanger en profondeur. Sur les valeurs, sur ce qui nous anime en fait. Et je dirais, voilà, c'est un enseignement qui est bon pour tout le monde en fait, parce que même dans les collaborations professionnelles, moi je fais beaucoup de travail dans l'équipe justement sur les valeurs. Voilà, donc du coup, ben, à partir de là, je me suis dit, ok, ben, tu t'écoutes vraiment, parce que je l'avais quand même ressenti un petit peu, je m'étais pas assez écoutée, et tu travailles vraiment en cohésion avec tes propres valeurs et avec celles de la personne qui est en face. Voilà, ça, le travail sur les valeurs me paraît vraiment essentiel.
Et oser donc avant une collaboration de poser les choses en fin de compte. Des fois on s'engage comme ça parce qu'on est dans l'enthousiasme, mais
Voilà.
que... Ouais, ok.
Mais ça, c'est super important parce que même dans les associations, moi, j'accompagne parfois des personnes qui s'associent pour monter une société, mais je les fais vraiment travailler sur la cohérence de leurs valeurs, hein. Je travaille d'ailleurs avec une coach qui est spécialisée là-dedans et qui fait, je fais à ce moment-là une séance avec cette coach où j'envoie mes clients et ils travaillent précisément sur la valeur, la cohérence des valeurs, pour être sûr de partir sur des bonnes bases et bases bien solides. Parce que si les valeurs sont pas communes ou en tout cas si on trouve pas un pont entre les valeurs des deux associés, à un moment donné, les associés iront au mur. Mais dans une équipe, c'est la même chose en cohésion d'équipe. Depuis ce jour-là, je démarre par un travail sur les valeurs. Quelles sont les valeurs communes à l'équipe?
C'est un podcast qui serait intéressant à faire, ça,
Oui.
sur les valeurs. Question suivante, quelle technique ou outil vous a le plus fait avancer personnellement ou professionnellement?
Alors, je dirais que, bon, moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'outils depuis 20 ans, évidemment. Je me suis formée à beaucoup d'approches. Je dirais qu'il y en a trois essentiellement qui m'ont fait le plus avancer. Tout d'abord, la communication non violente, évidemment, puisque j'ai trouvé que c'est vraiment extraordinaire d'être connecté à ses émotions. Sur le plan personnel, pour moi, ça a été. J'ai commencé à travailler là-dessus il y a 15 ans. Ça a été quelque chose vraiment de très puissant pour moi personnellement. Et puis professionnellement, évidemment, je vois aujourd'hui combien c'est important pour les personnes que j'accompagne. Voilà. Ensuite, une technique qui est peu connue, qui malheureusement qui mériterait à être davantage connue, qui est le dialogue intérieur. Alors, le dialogue intérieur, en fait, c'est une approche qui part du principe qu'on a plusieurs sous-personnalités à l'intérieur de soi. Donc, en fait, c'est Jung, hein, Carl Gustav Jung, qui a commencé à travailler là-dessus et qui a été développé par deux Américains qui s'appellent Hall et Sidra Stone et qui part du principe donc on a plusieurs parties. On n'est pas seulement un, on a plein de parties à l'intérieur de soi, donc plein de sous-personnalités. Et l'idée, c'est d'arriver à les faire cohabiter à l'intérieur de soi. Et c'est très libératoire parce qu'en fait, toutes ces sous-personnalités ont toutes leurs raisons d'être à l'intérieur de soi. Et que, en fait, parfois, on se dit, oh là, j'aurais pas dû faire comme ça. Oh là là, qu'est-ce que je suis trop comme ci ou trop comme ça. Non, en fait, c'est une partie de moi. Donc cette partie de là, de moi, c'est qu'elle a une raison d'être là. Et c'est important que je la respecte, que je communique avec elle. Quand elle me fait souffrir, ben que je lui demande ben de se calmer un petit peu, mais de respecter en fait toutes ces parties-là. Donc c'est vraiment une acceptation globale de soi. Et c'est tout un travail à l'intérieur où on apprend en fait à dialoguer en fait avec toutes ces sous-personnalités. Et c'est vraiment vraiment libérateur et ça permet de se connaître davantage aussi.
Vous me donnez plein de pistes de nouveaux podcasts quand même, hein. Vous êtes ma source officielle de sujets pour mes prochains podcasts.
Écoutez, je suis ravie parce que, en plus, j'aime beaucoup. Moi, j'adore transmettre et toutes ces techniques. Alors, la troisième technique sur laquelle, enfin, c'est plus qu'une technique, pour moi, c'est une vraie philosophie de vie sur laquelle je travaille depuis très, très longtemps, c'est la méditation. Voilà, donc, je médite depuis très, très longtemps et en particulier sur la méditation de pleine conscience, puisque, bon, ça, c'est plus récent hein, comme approche. Donc voilà, donc je trouve que ce plan personnel, c'est quelque chose, moi, qui m'apporte énormément. Hein, je médite, je dirais, tous les jours, hein, et depuis de nombreuses années. Et puis sur le plan professionnel, aujourd'hui, enfin, je peux introduire la méditation dans l'entreprise, parce que c'est vrai qu'il y a 15 ans, quand je parlais de méditation, c'était oh là 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 là,
C'est
c'est pas.
religieux, alors qu'aujourd'hui avec Jon Kabat-Zinn, ouais, c'est démocratisé.
Voilà, ça s'est complètement démocratisé. Donc aujourd'hui, je fais méditer les managers, les leaders, et alors, plus grand bonheur, voilà, donc c'est vraiment formidable. Donc c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi.
J'ai l'impression que vous avez une palette de compétences.
Oui, tout à fait, parce que bon, je ne vais pas vous tenir trop en haleine, mais bon, il y a beaucoup d'autres outils. Je travaille beaucoup en projectif aussi, avec des cartes
Ah
projectives.
oui, arrêtez ça tout de suite, hein. Oh là 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 là.
Donc là, bon, je n'irai pas
Des
plus loin.
cartes? Des cartes projectives, c'est ça que vous avez dit?
Des cartes projectives. J'utilise des jeux de cartes et avec ces jeux de cartes, effectivement, je travaille en projectif. C'est-à-dire que la carte est toujours un lieu de projection. C'est-à-dire que la personne qui va tirer une carte va en faire elle-même l'interprétation et va projeter en fait son univers psychique sur la carte. Donc c'est absolument passionnant parce que c'est une sorte de miroir, évidemment, un miroir de ce qui se passe, un miroir psychique en fait. Hein. Donc c'est absolument extraordinaire de travailler avec les cartes. Donc, j'utilise différents jeux de cartes et ça n'est jamais un hasard. Enfin, bon, je veux dire, à chaque fois qu'un manager, qu'une personne que j'accompagne tire une carte ou qu'un groupe, parce que je le fais aussi en cohésion, on clôt une cohésion avec les tirages de cartes, mais ça n'est jamais le hasard, quoi. C'est juste impressionnant. Même moi qui pourtant travaille avec depuis longtemps et qui sais que ça marche, je me dis c'est absolument incroyable. Donc, il y a un côté un peu magique et puis en même temps un côté bon, très enfin rationnel, c'est pas vraiment rationnel, mais où en fait on va travailler avec le support de la carte pour donc ça facilite aussi l'expression des personnes et puis c'est un outil projectif extraordinaire.
Ouais, j'ai remarqué ça, de travailler sur quelque chose extérieur à nous, aussi nous décomplexe d'une certaine manière, on ne se rend pas trop compte qu'on parle de nous et c'est moins impressionnant. Et du
Voilà.
coup, on se livre plus facilement. Et j'ai vu ça sur différentes techniques qui sont très intéressantes. Bon, on va quand même passer à la suite parce que je sens que vous pourriez Vous en auriez encore plein d'autres, et c'est dommage, hein, parce que ça me titille la curiosité, là. Mais allez, je reste sur mon timing. Quelle est selon vous la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Bon, alors évidemment, puisque c'est l'objet du podcast, l'intelligence émotionnelle, hein, pour moi, c'est évidemment.
Oh,
Là, je peux pas.
allez, une autre.
Une autre. L'écoute, évidemment, l'écoute. Alors bon, l'écoute, on en parle tout le temps, dans toutes les. Et pourtant, c'est tellement important. Et là aussi, le nombre de managers qui me disent oui, non, mais moi, c'est bon, j'ai travaillé, j'ai fait une formation là-dessus. Et puis en fait, quand je les vois en live, je me rends compte que non, en fait, l'écoute, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. C'est une vraie qualité de présence et une vraie qualité de présence empathique. Hein. L'empathie, c'est quelque chose, c'est une qualité essentielle chez le manager. Alors parfois, les managers me disent oui, mais tu sais, j'ai pas le temps, et puis bon, je vais pas faire du social. Ah, ben oui, mais bon, aujourd'hui, un manager est obligé d'avoir aussi cette casquette hein, d'écoute empathique parce que les modes de management ont changé, parce que les êtres humains ont changé, parce que l'entreprise évolue et que les employés dans l'entreprise attendent aussi cette écoute de la part du manager. Je le vois chaque jour, je veux dire, les managers qui viennent me voir, me disent, oh là là là, j'ai eu plein de conflits dans mon équipe, j'ai des conflits avec tous les gens. Et quand je travaille avec eux, ben, je me rends compte tout simplement déjà qu'ils n'ont pas d'écoute. Et les managers qui ont de bonne écoute, je peux vous dire qu'ils n'ont pratiquement pas de conflit. C'est juste, alors là, moi, je en fais l'expérience tous les jours. Tous les jours. Donc oui, l'écoute, c'est important, mais écouter, c'est écouter vraiment, quoi. Se mettre vraiment à la place de l'autre. Mais ce n'est pas parce que je me mets à la place de l'autre que je vais être d'accord avec lui. Je peux être empathique et ne pas être d'accord. Je peux être empathique et cadrant. Un manager peut recadrer un collaborateur tout en étant empathique. Hein, c'est-à-dire, bah, ok, je comprends effectivement que là, ce dossier, tu n'as pas pu le mener parce que pour telle et telle raison, simplement là, je te demande de le faire parce que là, on est limité par le temps, puis ça fait quand même 15 jours que je te l'ai demandé. Comment on recadre? Et je suis sûre que tu vas y arriver. Non, mais voilà, c'est tout.
Oui.
Après, attention, il faut que le manager soit authentique dans son écoute et son empathie. Parce qu'autrement, ça va se sentir immédiatement. Donc, encore une fois, c'est un vrai travail sur soi. Et l'écoute, c'est pas une écoute à demi-oreille, quoi. C'est
Oui, une écoute parce qu'il faut écouter, c'est pas celle-là.
non, non, c'est pas ça.
C'est de vouloir vraiment comprendre et de vouloir vraiment entendre ce que l'autre vit. Ok, et est-ce que vous auriez un livre à conseiller à la lecture?
Alors, si on reste sur l'intelligence émotionnelle, pour moi, le livre de référence, c'est quand même le livre de Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle au travail. Voilà, donc ça me paraît quand même le livre le plus important. En communication non violente, évidemment, Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg.
Ok.
Là aussi, une référence.
Je mettrai les références de ces livres dans la description du podcast, ainsi que la citation qui vous inspire.
Alors, la citation vraiment que j'affectionne particulièrement, puisque c'est la source de tout mon travail et puis du travail que j'ai fait depuis mon plus jeune âge également sur moi, c'est la citation d'Oscar Wilde qui dit bah, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris.
C'est vrai qu'elle est tellement, elle est tellement, elle fait sourire et en même temps elle est tellement vraie.
Mais, et puis pour être soi-même, bah, il est vraiment important d'être connecté à ses émotions.
Eh bien, merci beaucoup, Latifa. Ça a été très riche, cette rencontre avec vous.
Merci.
Ça m'a donné envie de plein d'autres choses en plus. C'est-à-dire que moi, j'aime ces rencontres qui aiguisent, où notre curiosité est stimulée. Et avec vous, ça marche bien.
Écoutez, ben c'est vraiment un plaisir pour moi également. Alors, ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que j'écrivais aussi des
Eh
livres.
oui, alors on va finir avec ça. C'est peut-être que vous nous parliez de vos livres et de comment on peut vous retrouver.
Alors, en fait, j'ai le plaisir depuis 2 ans d'écrire pour Larousse des livres pratiques où justement, moi, j'aime beaucoup transmettre ce que je fais là aujourd'hui avec vous, justement auprès des managers. Mais Larousse m'a confié l'écriture de, ben là, en 2 ans, j'en ai écrit 8. petits livres pratiques qui sont voilà très simples, très accessibles pour tout le monde, que ce soit des particuliers, des managers ou des salariés, peu importe, voilà, sur l'intelligence émotionnelle. Donc c'est sous forme 50 règles d'or de l'intelligence émotionnelle, 50 règles d'or de la gestion des conflits. J'ai écrit des petits cahiers d'exercices sur la méditation, sur la psychologie positive, enfin voilà, des choses très pratiques, très accessibles, voilà, j'aime transmettre. Me retrouver sur Google en tapant Latifa
Vous n'avez pas de
Gallo.
site internet?
Si, tout à fait, j'ai un site internet, voilà, latifagallo.com, tout simplement.
Que je
Mais en
note.
tapant mon nom, on tombe dessus tout de suite. Donc voilà, et là-dessus, il y a mon activité de coach, mon activité en entreprise également, et puis la liste de mes livres, voilà, et comment les trouver.
Bah, je le mettrai en description du podcast, qu'on peut retrouver sur iTunes ou sur mon blog moodstep.com où je mets des petits lecteurs. De SoundCloud qui nous aide à écouter ces podcasts sur Internet. Un grand, grand merci.
Ben merci à vous, Johanna.
Et
C'était
je
un
vous souhaite
plaisir.
une très belle journée. Et puis j'espère vous retrouver bientôt. Peut-être qu'on fera on prendra un nouveau sujet.
Très volontiers.
Super. Bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Alors, est-ce que cet épisode vous a plu? Si oui, retrouvons-nous dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. Rendez-vous mercredi. D'ici là, si vous alliez sur iTunes, vous allez dans l'onglet Notes et avis et vous laissez des étoiles. C'est pas beau ça? Quelques minutes et moi ça me fera très très plaisir. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, passez une merveilleuse semaine. Au revoir.